Bonsoir les amoureux des livres. Avant, la réussite sociale se mesurait à une Porsche ou à une Rolex. Aujourd'hui, les signes extérieurs de richesse sont la grande forme et la beauté. Notre société veut des dents blanches et une plastique agréable, en d'autres termes, mort aux moches. La laideur est synonyme de laisser-aller, de vie pourrie et de caractère sombre, et oui, on l'associe à la laideur morale. C'est cliché en la vie dure, mais notre époque enfonce le clou et l'explosion des actes de chirurgie esthétique en est la preuve. Physiquement, il vaut mieux être Laetitia Casta plutôt que Iti. Mais n'importe quoi, s'emballe la littérature. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes bête, Dupont-Mono, en plus d'être moche. Mais c'est même l'inverse. Les gens laids sont des promesses, nous dit la littérature. Dans l'Antiquité, Plotin affirmait déjà que la laideur suppose la vitalité, tandis qu'être beau, c'est être statufié. Victor Hugo ajouta qu'il est impossible de se lasser du moche, contrairement à la beauté. Et Louis Aragon commença son roman Aurélien par cette phrase. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Bérénice se révélera bien plus lucide, indépendante et moderne que son amoureux. Eh bien, Plotin, Victor et Bérénice ont désormais un copain en plus, un garçon très vilain qui s'appelle Déodate. Il est le héros de Riquet à la houppe, le dernier roman d'Amélie Nothomb. Lorsque Déodate naît, ses parents sont affolés. Mais que ce bébé est moche ! Or, contre toute attente, cet enfant grandit bien, sûr de lui. Il brave les quolibets de l'école, puis il s'impose malgré son affreux visage et il séduit tout le monde. Au même moment, une petite fille naît ailleurs. Elle est très belle, trop belle, et sa vie est un calvaire. Moralité, il vaut mieux faire peur plutôt qu'envie. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec une fille jolie, et intégrée, Amélie Nothomb. Elle nous donnera ses recettes, ce sera le procès-verbal, nous révélera ses penchants culturels inavouables, avant que Frédéric Becbédé, qui connaît par cœur les jolies pépées, ne vienne torpiller la beauté de ce face-à-face.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Mono.
Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour Clara.
Votre Déodat, alors on dit Déodat ou Déodate ?
On dit Déodat, que les prénoms qui se terminent par AT, c'est Honora, Prétexta, Déodat, ça se prononce comme ça.
Alors Déodat, il est donc très laid, mais il réussit sa vie. Est-ce que vous vouliez rétablir une sorte de justice ?
Écoutez, naître laid, c'est certainement un énorme désavantage, mais je pense que c'est un accès idéal à la modernité. Parce que qu'est-ce que la modernité ? La modernité, c'est la fragmentation. Et qu'est-ce qu'un être laid, sinon un être sublimement fragmenté ? Le principe de la laideur, c'est que rien ne va avec rien. C'est un être fait en patchwork. Donc, je pense que les êtres laids ont un meilleur accès à la modernité que les êtres harmonieux.
Quand Victor Hugo choisit dans Notre-Dame de Paris de désigner un laid, il prend Quasimodo.
Oui.
Le mot en latin, ça signifie presque de la même façon. Et d'ailleurs, Hugo écrit « En effet, Quasimodo, borgne, bossu, cagneux, n'était guère qu'un à peu près. » Alors, il y a de la fragmentation, mais il y a aussi l'état de quasi-humain. On est à peu près un humain quand on est laid. C'est ça qui fait souffrir.
On est d'emblée marginal, d'une marginalité déclarée. Donc il y a quelque chose de déclaré, d'une absence d'ambiguïté de la laideur. D'entrée de jeu, Déodat, il sait qu'il est maudit. Il sait qu'il va falloir se débrouiller autrement. Et il accepte son sort avec beaucoup de bon sens et beaucoup de grâce. Il est marginal, mais peu à peu, il grignote. Et il trouve sa place.
Ce n'est pas le cas, cela dit, de Enid et Honora, donc oui. Avec un témé que je ne prononce pas, qui sont plutôt, alors les parents, mais qui sont plutôt désarçonnés
oui.
par ce bébé très laid. Et dans le texte, vous citez Elephant Man.
Je ne suis pas un animal. Je suis un être humain. Je suis un homme.
Pour quelques pièces de monnaie, vous avez l'occasion de voir une chose que vous ne verrez qu'une seule fois dans votre vie.
Mais c'est épouvantable ce son parce qu'à la fois ça donne envie de pleurer et ça donne envie de rire de façon un peu nerveuse. Ça vous fait cet effet-là aussi ?
D'autant plus que c'est la version française. C'est la première fois que je l'entends en version française. Ça donne encore plus envie de pleurer.
Et alors Déodat, vous dites, dans le cas d'Elephant Man, pardon, on explique la monstruosité par un drame survenu lors de la grossesse. Enid n'avait pas connu de choc particulier quand elle était enceinte. La sale gueule de Déodat décourageait toute tentative de compréhension. Et vous soulignez que c'est encore plus difficile quand on est parent d'avoir un enfant très laid.
Ah oui, les parents d'un enfant laid, là, que faire? Quelle explication apporter? Quel sentiment de culpabilité? Si eux-mêmes ne sont pas profondément immondes, ils ne peuvent pas expliquer ça par la génétique. Donc ils se demandent où ils ont merdé.
Et c'est leur cas, ils sont assez beaux.
Ils sont assez beaux tous les deux, et ils mettent au monde l'enfant le plus laid du monde, sans lien de causalité possible. Donc ils se sentent coupables sans savoir exactement ce qu'ils ont fait de mal.
Ensuite vient le stade du miroir, dans la trajectoire de Déoda. Le bébé donc se découvre. Alors évidemment, il se découvre surtout une tronche de maître Yoda. Et en lisant la scène dans votre livre, j'ai pensé à Jean-Paul Sartre qui écrit dans les mots « Le miroir m'était d'un grand secours, je le chargeais de m'apprendre que j'étais un monstre ». Comment y réagit lui, Déoda ?
Mais de la même façon, c'est l'un de mes paris, c'est que les bébés sont au courant de la laideur et de la beauté. Et quand un bébé est suprêmement laid et qu'il se voit dans le miroir, il le sait, il le comprend. C'est bien sûr un choc, il doit l'accepter. Dès qu'il peut identifier ce qu'il voit dans le miroir à lui, il sait qu'il est laid. Donc il doit se construire une identité à partir de ça. Donc créer une espèce de narcissisme à l'envers. Et mon Déoda s'en sort très bien, c'est vraiment le héros de la laideur.
Et pourquoi, si sa mère avait dit « mais non, tu n'es pas laid, tu es différent », ça aurait été pire ?
Je pense vraiment que ça aurait été pire.
Pourquoi ?
C'est ce que j'appelle les pommades verbales, c'est ce qu'on invente aujourd'hui, vous savez, les euphémismes. Il faut vraiment à tout prix éviter la tragédie. Je prétends que c'est une injustice supplémentaire. Je pense qu'il vaut mieux dire la vérité, voire ne rien dire du tout. Je pense que les parents de Déoda, qui finalement n'aident absolument pas leur enfant, se contentent de l'aimer, mais n'essayent pas de lui expliquer que, voilà, qu'il est victime d'une injustice fondamentale, qui le laissent se débrouiller, eh bien ça vaut mieux.
Sartre n'a jamais réussi à écrire vraiment sur sa laideur. Et du coup, est-ce qu'un livre sur les gens laids ne peut être écrit que par quelqu'un qui ne l'est pas? Alors, ceci est un compliment multidéguisé, mais
j'avais compris.
Vous n'êtes pas laide.
J'avais compris, mais vous savez, peu importe ce à quoi on ressemble physiquement, ce qui est très important, c'est la sensation qu'on a de soi. Vous êtes très aimable de me trouver regardable, mais j'ai eu pendant de très longues années de ma vie, bien avant de connaître mon mari Frédéric Becbédé, j'ai vécu de très longues années de ma vie en étant persuadée d'être une abomination de la nature. C'était mon adolescence. J'ai eu une adolescence très longue et très ingrate. Quand j'ai rencontré ma grand-mère pour la première fois, j'avais 17 ans, et ma grand-mère m'a dit « Eh bien, ma petite, j'espère que tu es intelligente parce que tu es tellement laide. » Donc, peu importe la réalité, je ne la connaissais pas. Je me vivais comme une monstruosité de la nature et je n'avais pas de démenti. Ça a duré longtemps. Donc, une partie de moi demeure persuadée que c'est vrai. Et je me souviens qu'à l'époque, alors que je ne devais pas avoir une tronche tellement différente de maintenant.
Non, je vous confirme, oui.
À l'époque, quand je me regardais dans le miroir, je voyais vraiment un monstre. Donc, j'avais peut-être perdu le contact avec la réalité, mais c'était ma réalité. Et ce que je disais tout à l'heure de la fragmentation de la laideur, je me voyais comme ça. Je me voyais fragmentée. C'était une mosaïque.
Mais si vos parents avaient posé sur vous un regard aussi bienveillant, finalement, que Enid et Honora, est-ce que ça aurait changé des choses ?
Je ne sais pas, parce que mes parents m'aimaient beaucoup, mais visiblement n'étaient pas persuadés que j'étais regardable. Quand je demandais à mon père à quoi est-ce que je ressemble physiquement, j'avais 15 ans, il me disait « tu ressembles à Marguerite Yourcenar âgée ». Et quand je disais « maman, est-ce que tu me trouves belle ?», elle me répondait « tu es touchante, ma chérie ». Donc ces deux réponses, qui étaient certainement faites avec beaucoup de bienveillance, m'enfonçaient au contraire dans mon complexe.
Et vous avez réussi à ne pas leur en vouloir ?
Oui, parce que, au fond, ça m'a permis d'aller très loin. Bon, ça a failli avoir des conséquences tragiques, hein. J'aurais pu entrer dans des ordres pervers ou devenir terroriste, mais finalement, je suis simplement devenue un écrivain belge d'expression française.
En matière de signes extérieurs de réussite sociale, c'est pas mal. À l'adolescence, justement, Déoda, lui, il trouve le moyen d'être quand même, alors pour le coup, encore plus laid, c'est qu'il va devenir bossu.
Oui.
Bon.
J'avais le contraire, moi j'étais trop creusée.
Trop cambrée.
Déoda, c'est moi, hein. J'ai failli mettre un corset aussi.
Alors, en tout cas, le médecin, donc lui colle un corset.
Oui.
Et au début, ça le gêne, Déoda, il est très malheureux. Et ensuite, il s'en accommode.
Oui.
Et du coup, on se dit, est-ce que être très très laid, c'est finalement s'accommoder des contraintes, devoir s'en accommoder tout le temps ?
Oui, c'est-à-dire que c'est une contrainte bien supérieure, bien plus difficile que celle que subissent n'importe quelle personne, mais une contrainte plus dure entraîne une hyperadaptation qui fait que finalement on peut obtenir des gens socialement très à l'aise. C'est le cas de mon Déoda qui devient un très grand séducteur. Il y a eu plus d'un exemple d'un homme franchement laid devenu séducteur de très belles femmes. Voyez Gainsbourg qui a eu les plus belles femmes de son époque.
Sans compter que Riquet en normand signifie bossu.
Ah, ben ça, je savais pas.
Riquet à la houppe. C'est une des interprétations qu'on a sur le nom Riquet à la houppe, d'où ça vient.
Oui.
Et il y avait une des interprétations, c'est que Riquet, en dialecte normand, ça signifie bossu.
Mais dans le conte de Perrault, il est bossu. Et le mien est presque bossu aussi. Je voulais voir ce que devenaient les bossus aujourd'hui.
Il s'évade avec les oiseaux, votre Déoda. Oui. Alors, ça aurait pu être les chevaux, les grands fauves. Pourquoi les oiseaux, Amélie Nothomb ?
Parce que j'ai fait la même chose à partir de mes 11 ans, quand j'ai fait mes débuts dans la laideur, c'était quand j'avais 11 ans. J'ai eu la même attitude, c'est-à-dire que ne pouvant plus me regarder, de peur de voir quelque chose qui me ressemblait, j'ai levé les yeux vers le ciel et là, il y avait des oiseaux. Donc, je suis devenue absolument obsédée d'oiseaux.
Et comment est-ce que vous expliquez que vous ayez attendu finalement ces années-là pour écrire quelque chose qui est si proche de vous ?
Parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps pour parler vraiment de soi. Il y a eu beaucoup de personnages dans mes livres qui s'appelaient Amélie Nothomb, mais vous vous doutez bien qu'elle est finalement beaucoup moins proche de moi, celle-là.
Elle était beaucoup plus planquée.
C'est ça, que Déoda. Déoda est ma vérité, bien sûr.
Alors écoutez, Amélie Nothomb, nous, on a réfléchi à la laideur à cause de vous toute la semaine. Avec Thierry Dupin, notre programmateur musical, on vous a trouvé un petit quelque chose. Ça date de 1964, c'est signé Félix Martin, et c'est juste pour vous, c'est votre amuse-bouche.
T'es moche, mais je t'aime. T'es triste, sinistre, mais je t'aime. T'es sotte, très sotte, faut s'y faire. T'es cloche, t'es cloche, mais sincère. Plus je te vois, plus je me dis, t'as rien, rien pour qu'on s'en relève la nuit. T'as sur la vie une idée vague. Faut être dingue pour qu'on te drague. T'es moche, t'es moche, mais je t'aime. Tu ronronnes, tu me griffes, je m'en biffe et je pardonne. Tu n'es que l'effet d'un hasard. T'as rien, rien pour accrocher le regard. Pourtant, nous voilà couche à couche. Et des mots d'amour plein la bouche. T'es moche, je suis moche, mais je t'aime. T'es cloche, je suis cloche, mais tu m'aimes. T'as rien, j'ai rien, mais c'est bête. Y'a que pour l'amour que t'es chouette, y'a que pour l'amour que c'est chouette.
La mousse bouche sur France Inter.
Amélie Nothomb, je vous voyais rire sur la chanson de Félix Martin qui s'appelle « T'es moche ».
J'adore cette chanson, c'est je ne la connaissais pas. Quelle découverte, quelle belle chanson d'amour, pleine d'esprit. On dirait que c'est Bec Bédé qui l'a écrite pour moi.
C'était le chanteur de ces dames en plus, Félix Martin, c'était en 64. Et ce titre-là, il était disponible uniquement en 45 tours. Et on le doit donc à Thierry Dupin, notre programmateur musical. Amélie, vous êtes avec nous jusqu'à 20h pour votre roman « Riquet à la houppe ». Si je résume, même si les écrivains n'aiment pas ça, l'histoire de Déoda, qui est très laid mais qui est heureux. Et en parallèle, vous écrivez l'histoire de Trémière, comme la rose, qui est très belle, et sa beauté ne lui facilite pas du tout la vie. Vous écrivez, les gens ne sont pas indifférents à l'extrême beauté, ils la détestent très consciemment. Le très laid suscite parfois un peu de compassion, le très beau irrite sans pitié. Alors attendez, déjà, il y a plein de questions qui me viennent, mais déjà, on est quand même dans un contexte d'époque où on nous ordonne d'être beau. La beauté est un ordre. Donc il y a quand même une ambivalence, parce que d'un côté, la tyrannie de la beauté, et de l'autre côté, vous nous dites, oui, mais en fait, on ne supporte pas.
Mais on nous ordonne de nous arranger. Mais je parle ici de l'extrême beauté. Je parle de Greta Garbo, de ces cas de beauté-là, ces beautés inhumaines, ces beautés foudroyantes. Clairement, ce n'est pas un cadeau d'être comme ça. Greta Garbo a eu un destin épouvantable, une vie amoureuse désastreuse. Tous les autres cas de beauté équivalente, Ava Gardner, Vivien Leigh, franchement, leur destin ne fait pas envie du tout. Oui, on nous ordonne d'être le plus beau possible, mais ça donne des physiques possibles, ça ne donne pas des physiques divins. Le physique divin, c'est pas un cadeau, je ne parle pas d'expérience, ça ne m'est jamais arrivé. Mais visiblement, c'est inassumable parce que, en plus, ça provoque la haine d'autrui, ça renvoie les autres à leur propre médiocrité, donc on vous déteste.
Ça renvoie les autres à leur propre médiocrité, vous ne croyez pas si bien dire.
J'ai mis très longtemps à m'accepter aussi. Du fait du regard des autres et du regard de mes proches, qui était toujours très négatif.
Et d'avoir une beauté particulière aussi, hein.
Oui, atypique.
Ouais, atypique.
Et
ouais.
Justement, j'ai l'impression que ma beauté dérange et que je ne fais pas partie de cette époque ni de ce monde, en fait.
Voilà, ça c'est un témoignage, Amélie Nothomb, qui avait été recueillie par Jean-Luc Delarue dans son émission Toute une histoire du 25 février 2009. Donc vous voyez ce qu'elle dit, j'étais hors du monde. Alors ça paraît quand même un souci d'enfant gâté. On se dit c'est un caprice de luxe d'être trop belle. Vous nous dites, bah non, c'est la vérité. Et du coup, l'intermédiaire confortable, ce serait d'être sagement jolie, quoi.
Voilà, une joliesse convenable, une joliesse de magazine. Ça, là, toutes les portes vous sont ouvertes, vous plaisez, ça, c'est pas dérangeant.
Oui, c'est pas nous, quoi.
C'est pas nous, bien sûr que nous.
Alors,
bien
vous racontez une histoire que j'adore.
Oui.
Vous sortez un petit livre qui s'appelle « Discours de réception d'Amélie Nothomb à l'Académie royale de Belgique ». Chez Albin Michel, et vous racontez une petite histoire que vous tenez de Simon Leys,
oui.
Dans un pub irlandais.
Oui.
Est-ce que vous pouvez juste me la raconter?
Donc
nous la raconter.
C'est dans un pub irlandais, tout le monde boit de la bière, la radio diffuse de la musaque, c'est-à-dire de la musique d'ascenseur, enfin de la musique qui dérange personne, et soudain, accident de programmation, voilà que la radio diffuse du Mozart, et la musique céleste monte et s'installe et prend toute la place. Les consommateurs se fige, arrête de boire de la bière, puis sont furieux, se retournent vers le barman et disent « Mais est-ce que tu veux bien changer ce programme de merde ?» Et le barman remet de la musaque et tout rentre dans l'ordre. Donc ça prouve bien que ce n'est pas que les gens soient indifférents à l'extrême beauté, c'est que vraiment ils ne la supportent pas.
Voilà, c'est la conclusion donc de Simon Leys qui
oui.
dit « C'est pas que les gens ne remarquent pas la beauté, c'est qu'elle leur est insupportable. »
C'est ça.
Il arrive la même chose à votre petite trémière. Mais alors avec un paramètre supplémentaire, c'est qu'on la prend pour une truffe.
Oui, mais ça c'est de toute façon, c'est l'épithète homérique de la beauté, de l'extrême beauté. Pour supporter, pour intégrer une personne trop belle, l'unique sésame, c'est de dire qu'elle est complètement cruche, complètement demeurée.
Alors en même temps, elle ne pose pas de questions, elle
oui.
intervient peu, mais vous dites que c'est une capacité d'ahurissement.
Oui.
C'est quoi la capacité d'ahurissement?
Mais ma trémière est une personne profondément contemplative. Elle a un vrai regard sur les choses. Elle comprend qu'il suffit de regarder les choses suffisamment longtemps pour qu'elles deviennent passionnantes. Ce qui prouve bien qu'elle n'est pas bête du tout. Mais ça lui donne l'apparence d'une demeurée. Comme elle regarde tout en étant parfaitement figée d'ahurissement, tout le monde se dit, mais on a la confirmation, elle est extrêmement belle et elle est complètement stupide.
Vous avez choisi un conte, hein, Ricky à la houppe de Charles Perrault, paru en 1697.
Il était une fois une reine qui accoucha d'un fils, si laid et si mal fait, qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine. Une fée, qui se trouva à sa naissance, assura qu'il ne laisserait pas d'être aimable, parce qu'il aurait beaucoup d'esprit. Elle ajouta même qu'il pourrait, en vertu du don qu'elle venait de lui faire, donner autant d'esprit qu'il en aurait à la personne qu'il aimerait le mieux.
Ah, on a reconnu la voix de Catherine Fraud. Alors, dans le conte initial de Charles Perrault, la belle princesse, elle n'a pas d'esprit. Elle est un peu neuneu. Vous lui donnez de l'esprit, Amélie Nothomb. Elle est contemplative. Pourquoi les gens neuneux ne vous inspirent pas?
Mais si, je pense qu'elle est neuneux, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens neuneux. Je pense que les gens neuneux ont une autre façon d'avoir de l'esprit. D'ailleurs, la princesse du conte de Perrault, elle n'est pas con du tout. Déjà, elle sait qu'elle n'a aucun esprit, alors que d'habitude, les gens qui n'ont aucun esprit sont les premiers à être persuadés qu'ils en ont à revendre. Donc elle est extrêmement lucide, elle a une attitude que j'admire beaucoup. Donc je pense que ma trémière est neuneux. ce qui est une forme d'intelligence.
Nœud dans votre bouche, c'est drôle en même temps. On va passer en cuisine, Amélie Nothomb, puisque nous avons votre présence. Nous exigeons maintenant vos secrets, nous sommes insatiables. C'est l'heure du procès-verbal. Votre nom.
Nothomb, Amélie.
Alors, prénom.
Amélie.
Est-ce qu'en période d'écriture, votre sommeil, il est serein ou il est tourmenté?
Alors, je suis perpétuellement en période d'écriture, puisque j'écris 365 jours par an. Et je ne sais pas si c'est pour ça, mais mon sommeil est toujours extrêmement mauvais.
Vous avez des cauchemars ou des insomnies?
J'ai malheureusement assez peu de cauchemars parce que j'adore les cauchemars. Je trouve que le cauchemar produit un très très bon sommeil et des ondes de positivité au réveil. Malheureusement, j'ai beaucoup beaucoup d'insomnie.
Quand vous écrivez en période d'écriture, donc, vous êtes plutôt maquillée, coiffée, apprêtée ou au contraire très naturelle?
Ah, je suis au saut du lit, donc je suis infecte. J'ai les cheveux dans le nez et mon pyjama nucléaire orange.
Pourquoi nucléaire?
Parce que j'ai très très froid quand j'écris et que j'ai trouvé au Japon un pyjama qui produit des espèces d'ondes. Donc je suis toujours dans mon pyjama d'écriture.
Est-ce que vous parlez toute seule en période d'écriture?
Non, j'écris dans le plus grand silence. Le maximum qu'il puisse m'arriver, c'est de rire ou d'éclater en sanglots. Par contre, je tremble beaucoup en écrivant.
Vous tremblez?
Ah oui, surtout en écrivant certaines scènes. Quand je suis vraiment bouleversée par ce que j'écris, je me mets à trembler.
Vous levez la tête, qu'est-ce que vous voyez?
Le four à micro-ondes.
Vous travaillez dans la cuisine?
Mais le plus souvent parce que, en fait, je n'écris pas à une table, j'écris sur un tabouret et dans l'endroit le plus chaud de la maison.
Votre pause, quand vous faites une pause, à quoi ça ressemble?
Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que j'écris le matin, il n'y a pas de pause. Les 4 heures sont sans interruption. C'est après que je fais une pause et là, je dois prendre une douche parce que les 4 heures d'écriture, ça équivaut à un sport de haut niveau et j'ai besoin de me laver.
Et du coup, en période d'écriture, vous oubliez de manger ou au contraire, vous vous baffrez?
Alors, je n'ai pas le droit de manger aussi longtemps que je n'ai pas terminé d'écrire. J'ai besoin d'avoir très faim pour écrire. Ça tombe bien, je suis une nature plutôt affamée. Mais ça peut supposer que si j'écris 9 heures par jour, ce qui peut m'arriver, je ne mangerai pas avant la tombée de la nuit.
C'est la récompense, la nourriture.
La vraie récompense, c'est le champagne. Mais le champagne, malheureusement, c'est pas tous les jours. J'ai créé une règle drastique, le champagne, c'est un jour sur deux. Ça, c'est la suprême récompense.
Donnez-moi un mot pour définir la seconde avant de vous mettre à écrire.
J'y arriverai pas.
Vos rituels, vous en avez, ils sont connus, vous en avez parlé, vous vous levez très tôt, un litre de thé noir que vous recrachez en quelque sorte sous forme d'encre. Mais ces rituels, est-ce que vous diriez qu'ils sont là pour contrer une forme d'insécurité, une forme d'incertitude?
Non, pas du tout. Ils sont vraiment indispensables biologiquement. Se réveiller trop tôt, c'est nécessaire pour moi. C'est pas uniquement pour le plaisir de me contrarier, c'est parce que je sais que en se réveillant à 4 heures du matin, je vais trouver un état d'esprit que je ne trouverai à aucun autre moment de la journée. Boire ce demi-litre de thé trop fort en un coup à jeun, c'est très douloureux, mais ça va vraiment faire exploser ma tête. Donc ce ne sont pas des rituels gratuits, c'est parce que j'ai bien observé que c'est ce qui faisait fonctionner ma machine.
Merci Amélie Nothomb, vous êtes libre. Nous allons fêter ça avec un chanteur qui ressemble à une iguane, ce qui ne l'empêche pas d'être attirant. Non, ce n'est pas Déoda, votre héros, ce n'est pas non plus Frédéric Becbédé, c'est Iggy Pop.
Ah.
Statement. This job is a
France Inter, Clara Dupont-Monod, c'est l'amuse-bouche.
C'était Iggy Pop, qui n'est pas du tout une iguane, mais un iguane. Je mets du féminin partout. Par contre, l'amuse-bouche, c'est masculin. Vous êtes sur France Inter jusqu'à 20h. Notre invité, c'est Amélie Nothomb pour Riquet à la houppe, paru chez... Ah, ça c'est Frédéric Beigbeder. Oui, c'est Frédéric Beigbeder, Amélie, pardon. Il est en retard, j'arrive. Merci, on lâche. Bonsoir Frédéric.
Oui, pardon, excusez-moi.
Pas de mal.
Je suis désolé.
Pas de mal, un peu en retard quand même.
J'étais avec deux filles affreusement moches, mais très intelligentes.
Ah.
Puis j'ai eu envie d'inverser, et donc je suis venu.
Voir des belles filles
voir
un peu cons.
Des canons pas très fut-fut.
Bon, passez-nous.
Il est très gentil.
C'est sympa, hein.
Ce garçon.
Oui, alors, donc, comme chaque semaine, Clara, vous ne parlez que du dernier livre de l'invité, hein, puisque vous vivez dans un présent immédiat, voilà. Vous avez une mémoire de poisson rouge.
Mais, c'est ça. Mais je justifie vos émoluments, puisque vous êtes payé pour avoir un regard.
Moi, je vais heureusement donner un peu une vue d'ensemble sur l'œuvre d'Amélie Nothomb, hein, quand même, parce que c'est 25 romans, on ne veut pas trop bâcler les choses. C'est pas simple, hein, en deux minutes. Elle a commencé avec ce dialogue, Hygiène de l'assassin, en 92, et puis il y a eu d'autres dialogues, Mercure, Cosmétique de l'ennemi, mais aussi des autobiographies, très vite, hein, à partir du deuxième roman, Le sabotage amoureux, et puis Stupeur et tremblement, Grand Prix du roman de l'Académie française, en 99, et puis plein d'autobiographies, Métaphysique des tubes, Biographie de la faim, Ni d'Ève ni d'Adam, Prix de Flore 2007, et puis La nostalgie heureuse, enfin il y en a eu plein, des livres autobiographiques, et la troisième catégorie, c'est les fictions délirantes, parce que on le sait, Amélie Nothomb prend beaucoup de drogue, et donc il y a
son côté poisson rouge aussi.
Il y a une catégorie de livres qui a commencé avec Peplum, qui se passe en 2580, et puis il y a Robert des noms propres où Amélie Nothomb est assassinée. Il y a Acide sulfurique, ça c'est un de mes préférés, une émission de télé-réalité dans un camp de concentration. Il fallait oser, mais c'était très intéressant. Barbe bleue aussi, et puis Riquet à la houppe est un peu dans cette catégorie-là. Alors elle vient de dire l'inverse. Je suis embêté parce qu'elle vient de dire que non, c'était pas une fiction imaginaire. C'était autobiographique. Donc là, j'ai l'air inculte. J'aurais dire le principal, c'est quand même qu'Amélie Nothomb, c'est mon épouse virtuelle.
Il paraît.
Virtuelle.
Mais oui, c'est une très belle histoire. Alors là, il faut que vous éclairiez un petit mystère pour nos auditeurs. Vous êtes donc prétendument mariés tous les deux, c'est bien
mais
ça?
Mais pas du tout prétendument. Nous sommes authentiquement mariés depuis plus de 10 ans et nous sommes un vrai couple moderne en ceci que nous ne nous voyons jamais.
Oui, et alors donc, je voulais vous demander, Amélie, si vous parliez de moi à la dernière page de votre dernier livre, Riquet à la houppe, donc vous dites ceci... Elle n'eut jamais pour lui la voix excédée d'une épouse et il lui épargna toujours les propos narquois d'un époux. C'est bien sûr moi.
Mais c'est nous, vous nous avez reconnus.
Oui, merci.
On se voit si rarement qu'on garde une parfaite estime l'un de l'autre.
Oui.
Si je dérange, vous dites, hein. Il y a aucun souci.
Sérieusement, le sujet de Riquet à la houppe, moi, me passionne parce que il se trouve que j'ai fait un film cette année sur le même sujet, la beauté, qui s'appelle L'Idéal. Et c'est pas du tout parce qu'il sort le mois prochain en DVD
non,
que je dis ça.
Non,
mais
placement produit. Placement produit.
Ce serait vraiment vulgaire. Non, ce serait même.
Oui, ça vous ressemble le récit.
Non, ça me ressemble
c'est
pas
comme de
tirer la couverture à moi. Vraiment. C'est pas mon genre. Non, mais à propos de la beauté, puisque vous avez vu le film, je cite Dostoïevski dans L'Idiot qui dit que la beauté sauvera le monde. On est d'accord que c'est une connerie, ça.
C'est une connerie, mais une connerie qui, parfois, est vraie. Parfois, on est en présence de la vraie beauté et on se dit, mais c'est vrai, je ne sais pas comment ça va se passer, mais cette beauté que je vois sauvera le monde.
Mais en même temps, si je peux me permettre, on se dit que les paramètres vont peut-être bouger, parce qu'il y a un livre qui s'appelle « Éloge de la laideur » d'Umberto Eco, dans lequel il explique que la laideur n'a pas cessé d'évoluer. En musique, longtemps, ça a été la dissonance, c'est entré dans les mœurs. Au fond, Jérôme Bosch, il a inventé le piercing. Donc à l'époque, c'était très 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 angoissant et révulsant, et ensuite c'est rentré dans les mœurs. Est-ce que sinon, ce serait pas de même pour la laideur, finalement? Est-ce que les visages, à un moment, très laids ou prétendument disgracieux, ne passeraient pas pour des canons de beauté? Est-ce qu'on peut espérer ça?
Mais ça se produit. Ça va être le grand âge de la laideur. On y est peut-être déjà, même, sans le savoir.
D'ailleurs, nous trois autour de cette table.
On a notre chance.
Hein, on a quand même notre chance. C'est l'heure des inavouables, Amélie Nothomb. Vous êtes une bombe, quand même. Un peu écervelée, d'après Frédéric Beigbeder, mais quand même une bombe.
Elle disait ne-ne, j'aime bien ne-ne.
Ne-ne, moi aussi, j'aime bien.
Ne-ne, ouais. Ça me va très bien.
Vous n'en êtes pas moins humaine, hein, donc faillible. Donc, est-ce que vous avez des penchants culturels un peu honteux?
Bien sûr.
Ah, alors, lesquels?
Déjà, je ne rate jamais un film avec Arnold Schwarzenegger. Ce sont généralement de très bons films et j'en sors absolument morte de rire. Il y a des répliques cultes de Schwarzenegger dans Terminator 2 qui me servent très souvent. Let me try my code est une formule culte pour moi.
Alors lui, c'est un beau gars, super beau gars, pour le coup.
Alors là, ça ne me viendrait pas à l'esprit comme ça. Pour moi, c'est pas. Franchement, il n'est pas du tout mon genre.
Elle n'aime pas les mecs musclés puisqu'elle m'a épousé.
Voilà.
Ah oui, c'est vrai. En même temps, elle vous voit peu. Mais quand même, rien que pour la gourmandise.
I'll be back.
She'll be back.
I'm back.
Bon, alors lui, la capacité d'ahurissement comme Trémière, oui. Je pense qu'on peut chercher un peu loin. Encore que, il est peut-être très contemplatif, Schwarzenegger.
Mais après oui, tout. Sûrement, mais oui, sûrement. C'est un type passionnant. Hein. Il a été quand même gouverneur d'un État,
gouvernateur.
La Californie.
Est-ce qu'il y a un autre goût culturel un petit peu honteux, Amélie?
Cyndi Lauper.
Oh, j'adore.
Cyndi Lauper vraiment, pendant les années 80, j'écoutais Girls Just Wanna Have Fun. Je trouvais cette chanson formidable parce que on nous disait, oui, il faut avoir une carrière, c'est tout ce qui compte, c'est de se bâtir un avenir. Et puis, il y avait Cyndi Lauper qui disait Girls Just Wanna Have Fun.
Ah, oh, bah, reprenez un peu de cet amuse-bouche. On bouge des épaules, hein, quand même.
J'adore
hein.
Cette chanson.
Et vous vous souvenez de ses cheveux?
Ah, oh, c'est... Voilà. Ça, c'est une coiffure.
Je veux.
Ça, c'est une coiffure.
C'est marrant, parce que je pensais que vous alliez citer des Japonais. Et en fait, ce ne sont que des Américains. Là.
Il y a un certain sens du mauvais goût. Mais en même temps, c'est tellement sympathique. Il y a des figures pop japonaises qui sont en effet très laides, et d'autres arts de la laideur au Japon. Mais ce n'est pas de la laideur libératrice, c'est peut-être trop cérébral.
Vous resterez mariés après cette émission?
Évidemment, bien sûr.
J'espère que ça n'a pas entamé la belle entente, en même temps complètement inexistante, puisque vous vous voyez peu.
Vous vous rendez compte qu'on est en train de vivre le tête-à-tête le plus long de toute l'histoire de notre mariage.
Après qu'il nous ait dit qu'on était très jolis et un petit peu écervelés quand même. De toute façon, c'est bientôt l'heure de passer à table. Les invités vont arriver. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que si vous êtes laid, eh ben restez-le, puisqu'après tout, la vie vous sourira. La preuve avec Ricky à la houppe d'Amélie Nothomb, publié chez Albin Michel. La semaine prochaine, nous recevrons Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour le dernier des nôtres chez Grasset. L'amuse-bouche doit sa grande beauté à Marie-Annick Rimbaud, Amel Caldi, Thierry Dupin et Clément Vuillet. Tout de suite, on reste dans la splendeur avec Expression Directe. Et après 20h, ce sera D'ici et d'ailleurs de Zoé Varier. À samedi prochain, belle semaine et on vous embrasse.